Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, notre invité du jeudi sera un auteur, Maurice Chalaillé. On va parler avec lui finalement de deux livres, puisqu'il a un livre de poche qui est sorti chez Deboré avec Le Porteur de Joie qui a eu le prix Averm 2021. Et puis son dernier roman, L'Horloger de Jarrou. On le retrouve dans quelques instants. Voilà, tout de suite, on va retrouver Maurice Chalaillé. Maurice, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va d'abord vous découvrir un petit peu, peut-être. Vous écrivez depuis combien de temps ?
Alors, la sortie, on va dire, de mon premier ouvrage, donc, c'est 1987.
Ah oui.
Les Sentiers de la Joie, d'ailleurs, avec des illustrations par Jean-Emmanuel Pic de Montfaucon.
Donc, d'accord, dans la Haute-Loire. Ouais. Et donc, vous étiez dans l'enseignement.
Voilà, donc une bonne partie, les deux tiers, on va dire, de ma vie professionnelle, effectivement, dans l'enseignement, dans une école d'apprentissage, où pendant 38 ans, après avoir exercé donc le métier de scieur affûteur dans l'entreprise familiale.
D'accord.
Pendant 38 ans, donc, j'ai été enseignant, effectivement, pour le métier de la scierie et de l'affûtage.
Très bien, ben oui, on est dans un pays quand même de bois, il faut le rappeler. Hein, donc,
c'est ça.
Voilà, alors après, à la retraite, vous avez profité donc pour écrire un petit peu plus ou vous écriviez déjà beaucoup ?
Non, j'écrivais déjà beaucoup, puisque là, L'Horloger de Jarrou est le, je crois, 12e roman. Donc, du coup, c'est pas nouveau. Hein. J'ai toujours mêlé mon travail d'enseignant avec l'écriture tant de romans, mais aussi une année sur deux, finalement, intercalé toujours entre deux romans, un livre aussi sur la Syrie, puisque donc 8 ouvrages ont été publiés sur le métier de la Syrie aux éditions L'Harmattan. Ce qui fait un dépôt, on va dire, de mémoire de sur ce métier assez important depuis 2000, oui, depuis 2000, quoi, en fait. Il y a 8 ouvrages.
Ok. Donc là, on a deux livres. On a un livre de poche avec Le Porteur de Joie qui a eu le prix Averm 2021. Et puis on parlera du deuxième, Maurice Chalaillé, oui, L'Horloger de Jarrou aux éditions de Boré. Pour commencer, vous avez écrit combien de romans là avant de commencer?
Voilà, a priori, donc je compte plus, hein, mais je crois que c'est le 12e L'Horloger de Jarrou.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Voilà. Alors, on va parler tout d'abord du celui de poche, le terre de poche, hein, le livre de poche. Donc, Le Porteur de Joie. Alors, ça, c'est ça parle un peu. Vous êtes inspiré de la vie d'un champion olympique aux Jeux d'Anvers en 1920, Joseph Guillemot, parce qu'on va voir que le petit Joseph, hein, qui est de la famille et Guillotot, lui, il est vraiment attiré par la course à pied, mais dans la famille, ben, tout le monde n'est pas d'accord, parce que pour eux, courir, c'est pas un métier.
C'est ça. Voilà, donc le Porteur de Joie qui effectivement a eu le prix Averm 2021, donc l'année dernière, un prix pour moi important, puisque il y avait en lice des on va dire entre guillemets des romanciers, des gens connus, des gens dont c'est le métier, si on peut dire. Moi, jamais considéré que l'écriture était mon métier. Et contre toute attente, le Porteur de Joie a remporté la mise et j'en suis assez content et assez fier. Ça démontre que aussi bon, finalement, sur notre territoire, on peut réaliser des ouvrages qui sont d'une envergure nationale. Et puis voilà, c'est quand même bien aussi de montrer que les choses ne se passent pas qu'à Paris, hein,
exactement.
Avec les grandes maisons d'édition.
Oui.
C'est important de le signaler. Donc le Porteur de Joie, une histoire qui a emballé, on va dire, les jurys parisiens, parce que elle nous ramène à une époque clé de notre histoire, c'est-à-dire toute la période 1900 jusqu'au 1920, où plein de choses importantes se sont passées, hein, loi de séparation de l'Église et de l'État notamment, tous ces conflits qui ont agité la France entre les catholiques croyants et puis ceux qui ne l'étaient pas, et les grandes bagarres qu'il y a eu dans les paroisses, notamment avec les représentants de l'État qui venaient après la loi donc saisir les objets non utiles au culte, et avec des bagarres assez importantes aussi bien dans notre région du Massif central mais que dans d'autres régions françaises. Et puis c'est bien entendu tout cet enseignement militaire, hein, qui va se faire dès l'école et dès avant 1900, où on voit dès l'école primaire finalement jusqu'au certificat, on donne des rudiments militaires. Voilà, l'année du certif, on apprend aux jeunes à tirer avec des carabines donc réelles sous le préau, et tout ça donc pour préparer cette reprise des territoires perdus, donc qui sont devenus des provinces allemandes. Et ça, c'est des choses que moi j'ai découvert et qui m'ont beaucoup enseigné sur ce d'où on vient, quoi, et ce pourquoi aussi les gens sont partis se battre avec, on a coutume de dire, la fleur au fusil.
Oui.
Voilà, et voilà, donc ça, j'ai détricoté toute cette histoire et j'ai mis dans cette histoire donc Joseph, ce petit Joseph qui effectivement est un fou de course à pied des petits et qui va être découvert finalement, on va découvrir ses qualités au championnat de France militaire pendant la guerre, puisqu'il va devenir soldat, et où il va remporter les trois courses des championnats de France militaires en mars 18, donc fin de la guerre, et où et tout ça est réel, hein, où il va être récompensé par Pétain, et qui va lui remettre donc trois portefeuilles de 1000 francs, et donc voilà, et puis c'est toute la suite après ces jeux, c'est-à-dire son gazage, ça c'est vrai, c'est arrivé, son gazage, et puis son... la maladie et tout ça qui va s'en suivre, et il se soigne, et malgré tout il va revenir au premier plan en course à pied, et puis avoir ce dont il a d'ailleurs dans la tête depuis tout petit, l'envie de participer aux Jeux Olympiques, et puis bien entendu de remporter la plus belle course du 5000 mètres. Et donc ça, c'est le fil conducteur du roman.
Voilà.
Et il se suit comme une course.
Voilà, voilà, oui. Donc vous faites courir, et le roman suit la course, quoi. Voilà, c'est une course vers un titre hypothétique, hein, parce que être champion olympique, c'est pas si facile que ça, même dans ces années-là. Surtout que c'est dans les années de guerre. On vient de finir la Grande Guerre, comme on a appelé. On dit qu'il n'y en aura pas d'autre. Il y a 39 qui va arriver. Donc ça va être compliqué. Puis à cette époque, quelqu'un qui maintenant ça serait passé inaperçu, hein, quelqu'un qui fait du sport, qui a envie d'être champion, tandis que là il y en avait pas beaucoup, hein, qui avaient cette idée en tête.
Alors effectivement, d'ailleurs c'est souvent dit, on le prend pour un fou quand il court chez lui dans son pays d'origine. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, et ça c'est, on le sait depuis peu, hein, depuis quelques années, mais en fait le sport et Pétain est un peu à l'origine de ça, c'est-à-dire après les après la révolte des soldats, là, en 17, tout ça. Donc, les gars, ils en ont marre, quoi. Ils veulent plus monter au front. Il y a des rébellions. Et c'est cette idée de mettre en avant le sport, de faire différents sports, hein, emmenés par des gens peut-être un peu plus aguerris, ben d'ailleurs comme Joseph, c'est-à-dire de constituer des équipes, hein, par bataillon, et tout ça à l'arrière, hein, donc différents sports sont organisés, mis en avant, peut-être aussi avec l'arrivée des Anglais, des Américains, tout ça, donc des gens qui viennent aussi avec leurs pratiques, et tout ça, donc pour entretenir aussi, c'était sous-jacent, la forme des soldats.
Hein, bien sûr.
C'était pas que pour le simple plaisir, mais bon, comme c'était difficile de faire des manœuvres, effectivement, avec des gens qui étaient saoulés par ce qu'ils vivaient devant, eh bien, la pratique sportive, l'objectif, c'était de leur faire changer les idées et puis de les maintenir en forme aussi, certainement. Hein.
Oui, mais le sport a toujours été très présent dans l'armée, hein, toujours.
C'est ça.
Ouais, toujours, quand on faisait du sport, on était plutôt bien vu, quoi. Même après, quelqu'un c'est qui ça. Arrivait à un sportif, il avait toujours un petit peu des avantages par rapport aux autres qui ne voulaient pas c'est faire grand-chose. Mais c'est vrai, hein. Donc, voilà. Donc, eh bien, lui, le porteur de joie. Au travers de ce roman, on va voir. Alors, lui, c'est un peu plus compliqué, hein, parce que c'est à l'entre-deux-guerres. Donc, là, c'est vrai que le climat n'était peut-être pas extraordinaire pour faire du sport, mais il va persévérer.
Oui, il va. Donc, Joseph donc, effectivement, va briller à Anvers. Mais Joseph, donc, c'est. J'allais dire que. J'en ai pas parlé avant, mais c'est aussi à travers le livre. On parle de quelqu'un qui a marqué le sport, c'est Jean Boin. Jean Boin, donc, qui était, lui. Tout le contraire de Joseph Guillemot, c'est-à-dire le scientifique. Hein. Malheureusement, Jean Boin, donc, dont on connaît aujourd'hui son nom par des stades qui portent son nom, c'est un nom qui est resté, mais ce que les gens savent moins, c'est que ça a été aussi un grand champion et qui est parti à la guerre, pas comme les autres. Hein. Il aurait pu être dispensé, mais à cette époque-là, l'honneur, les gens veulent faire leur devoir et il part sur le front et malheureusement le premier mois de guerre, Jean Boin donc va être tué très certainement on le sait maintenant par un tir français d'ailleurs c'était un coursier hein, donc et il va se faire balayer par certainement un éclat d'obus. Et bref, donc, pour situer quand même les prouesses de Joseph Guillemot, mais Guillotot dans le roman, il faut savoir que dès 1918, finalement fin 18, quand il va pouvoir reprendre un peu les courses sur route et sur la piste, il va approcher les temps que faisait Jean Boin à son âge. Et puis un peu plus tard, donc il va même les dépasser. Autrement dit, donc c'est pas un remplaçant bis, on va dire de Jean Boin, mais c'est son équivalent, même plus. Mais le problème de Joseph, c'est que c'est le caractère français, c'est-à-dire c'est le cabochard. Il va jamais vouloir faire comme les autres. Et puis il vient du Massif central, il a l'habitude de bien manger, de boire un peu, de fumer. Et ça, évidemment, ça va pas être du tout du goût des entraîneurs et de la prochaine fédération française d'athlétisme qui va se créer, donc comme dans beaucoup d'autres sports après la guerre. Et c'est ce qui certainement va lui coûter les Jeux Olympiques de 24 à Paris. Parce qu'il a continué de courir, bien entendu, après Anvers, hein, il n'avait que 20 ans, et gagné des grandes courses, et gagné aussi ce qu'on appelait autrefois le cross des nations, hein, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les championnats du monde de cross, et donc autant dire que c'était quand même un coureur de très haut niveau, et donc voilà, cet esprit cabochard qui revendique du reste. maillot de course, une tête de cochon, il revendique complètement ce statut, mais malheureusement, c'est pas trop du goût des instances sportives qui, bon, c'est la petite histoire qu'il rapporte, mais qui vont le sanctionner indirectement en le privant de certainement des JO de 24. C'est dommage parce qu'il aurait pu. Il aurait pu rencontrer à nouveau Paavo Nurmi, qui raflera tout d'ailleurs à Paris. Paavo Nurmi qu'il a battu d'ailleurs à Anvers.
Voilà. Donc à découvrir dans ce livre de Maurice Chalaillet, pardon, Le porteur de joie, prix Arverne 2021, chez Deboré. Alors juste pour terminer sur ce livre, on a connu un coureur cycliste qui était peut-être pas autant que ça, mais un petit peu. C'était Jacques Anquetil. Hein. Jacques Anquetil, lui, se privait de rien. S'il avait envie de boire du champagne le soir d'une étape, il buvait du champagne. Il était pas.
C'est ça.
Mais bon, voilà. Alors, il y a des gars comme ça, ça l'a pas empêché d'être un grand champion, quand même.
Hein.
Oui, et ben voilà, vous découvrirez tout cela, chers auditeurs, hein, le porteur de joie. On va faire une petite pause musicale avant de parler de l'horloger de Jarroux. J'ai choisi de vous faire écouter à tous la musique des Jeux Olympiques de Tokyo. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà cette musique hein, qui était la musique d'ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo. Et on voit un coureur africain qui court comme cela pendant toute la chanson à travers son Afrique, hein, la brousse un petit peu. Voilà, c'est pour un peu parler de course à pied. Alors là, on va changer complètement de sujet, bien sûr, puisqu'on va aller à l'horloger de Jarroux. Alors là, c'est complètement différent. Hein. On va voir, ce roman n'a plus rien à voir avec la course à pied. Hein.
Non, tout à fait. Donc là, c'est on met de côté l'aspect sportif de la chose, si on peut dire, pour entrer sur un autre sujet qui est principalement la passion pour un métier, la transmission. Mais si aujourd'hui on va dire vouloir faire un métier, l'apprendre, se passe relativement bien et normalement, c'était loin d'être le cas dans les années 50-60, où il y a plus forte raison s'il y avait une scierie ou une une ferme à reprendre dans la famille, eh bien, il fallait apprendre le métier du père et mettre de côté un peu l'envie de faire un autre métier. Voilà. C'est arrivé, je pense, à une multitude
à beaucoup à la campagne.
Ouais, d'hommes et de femmes, précisons bien aussi. Peut-être un peu moins pour les femmes, bien que, je ne sais pas trop, mais c'était véritablement un problème pour beaucoup d'hommes qui ont dû embrasser la carrière du père, du grand-père, etc. Donc, des fois contre cœur. Voilà.
Oui, alors, votre. C'est Yves Jacquot, hein, qui est dans.
C'est ça, Yves Jacquot,
oui. Ouais, qui va être dans le livre. Alors, bon, vous avez situé. On voit que vous aimez le bois quand même, parce que vous avez situé votre roman dans le Jura, hein, Besançon. Donc, on sait qu'il y a pas mal de scieries là-haut. Et puis, peut-être que. Enfin, c'est à côté, c'est pas très loin de la Suisse. Hein, et on savait qu'à cette époque. Ben, les gens avaient un métier, mais en plus, il y en a justement qui faisaient de l'horlogerie pour améliorer un peu l'ordinaire, je dirais.
Voilà, c'est complètement ça. C'est-à-dire que, bon, maintenant, ça s'est un peu arrêté. Mais les années 50-60, on avait encore, sur le Haut-Jura, ce qu'on appelait donc des paysans horlogers. C'est-à-dire des gens qui avaient à la fois une petite ferme. Et puis, pour l'hiver, hein, quand vous avez un mètre de neige à l'extérieur,
ouais.
Eh bien, il y a la tradition, il y a eu le jouet aussi, bien sûr, fabrication de jouets, le tournage notamment, qui était l'activité phare, un peu dans le bois, mais il y a eu aussi donc l'horlogerie, c'est-à-dire le montage de montres qui se faisait donc à domicile, on va dire, et par de petits artisans, hein, comme ça, et c'est un peu là que j'ai situé dans cette affaire-là, j'ai situé le roman, c'est-à-dire dans une famille de scieurs, Yves et l'enfant du plus gros scieur du canton, et à 500 mètres de la scierie, il y a les grands-parents qui ont encore cette ferme ancestrale, si on peut dire, tout en bois, et vraiment selon un peu la tradition, ça n'a pas bougé. Pas loin, on a les vaches, hein, les tables. Et puis, d'un autre côté de la maison, avec la lumière, avec des baies vitrées, on a l'atelier de l'horloger. Voilà. Donc, j'ai situé dans ce contexte. Alors, on est plutôt sur le Haut-Jura, hein,
ouais.
C'est-à-dire dans le secteur peut-être de la Chapelle des Bois, les Rousses, enfin bon, dans cette grande région du Haut-Jura où on retrouve l'ambiance des plateaux, hein, les plateaux enneigés, notamment l'hiver, tout ça, le froid, et puis aussi les pessières, hein, les forêts plantées d'épicéas, le sapin, la falaise. Voilà, tous des lieux qui sont un peu des marqueurs dans le Haut-Jura. Voilà.
Oui, alors, pour en revenir à Yves, alors lui, il est vraiment passionné parce que il est toujours dans l'atelier de son grand-père. Il est vraiment passionné par l'horlogerie, il va en faire son métier.
Eh oui.
Il est passionné dans ce domaine, surtout qu'apparemment, l'école, c'est pas son truc. Hein, donc,
alors, c'est pas que c'est pas son truc.
Ça l'ennuie.
Non, pas spécialement, mais je l'ai pas précisé dès le départ, mais c'est sans doute, là aussi, certainement aussi par mon passé d'enseignant, j'ai côtoyé nombreux garçons et filles dans ce cas-là, tout simplement, mais on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais il est victime, si on peut dire, de dyslexie, voilà.
Ah oui.
Donc, Yves, comme... pareil, énormément de jeunes garçons ou de jeunes filles à cette époque-là, et malheureusement encore, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient immédiatement catalogués parce qu'ils n'arrivaient pas à écrire comme les autres, ils n'arrivaient pas à compter, parce qu'ils étaient victimes de cet handicap. Et voilà, donc c'est pas qu'ils rejettent, mais il a des difficultés à cause de ça. Et lui, Yves, donc, va avoir une chance énorme, c'est que derrière lui, il y a sa grand-mère, il y a sa maman, et l'instituteur aussi du village qui a compris un peu ce qui se passait, qui fait des recherches, qui essaye de trouver des moyens pour l'aider à communiquer, parce qu'en fait, la problématique est essentiellement là. Et puis c'est la maman qui va trouver le moyen, comme exactement ce qui se passe aujourd'hui avec des enfants dyslexiques, c'est leur donner la possibilité d'avoir un micro-ordinateur portable sur leur table et de pouvoir taper des choses, de manière à mieux appréhender l'écriture. Et c'est elle donc qui va trouver le moyen en apportant son ancienne machine à écrire. Et là, Yves, en voyant sur les touches les lettres, tout de suite ça va aller mieux. Donc c'est un peu le hasard à l'époque hein, de cette démarche, mais en fait c'est une démarche qui aujourd'hui est, si on peut dire, banalisée dans les classes lorsque on veut être un petit peu plus attentif aux enfants 10. Et bon, c'est assez compliqué, mais voilà, donc, et puis c'est un gamin qui est, faut qu'on le dise aussi, plus doué pour le dessin que pour l'écriture et pour compter. Hein.
Voilà, mais lui quand même, son rêve c'est de devenir horloger, hein, donc, mais bon, on va voir que c'est un petit peu compliqué, parce que bien sûr, il est dans une scierie, donc, et même son grand-père a une ferme, donc ce qui veut dire que il peut aller dans l'un ou dans l'autre, mais dire je vais devenir horloger, dans la famille, ça ne doit pas être très très bien vu, quoi.
C'est-à-dire que le père, il y a trois garçons, hein, donc dans la famille, les deux aînés, sont plus doués pour les études et vont poursuivre leurs études, l'un en médecine et l'autre va devenir ingénieur. Et comme ça se passait à l'époque et malheureusement encore souvent aujourd'hui. À partir du moment où on dit ah bah oui il est pas doué pour les études donc il va faire un travail manuel, donc ce qui est absolument ridicule dans la démarche, mais c'est souvent un peu comme ça que sont appréhendées les choses tout du moins en France. Et donc du coup notre Yves, eh bien il se débat avec tout ça et à un moment donné le père va plus ou moins lui imposer donc d'aller à l'école du Bois de Mouchard, qui est finalement pas très très loin, la célèbre école du Bois de Mouchard dans le Jura, pour apprendre le métier de scieur. Voilà.
Ah, donc pour l'instant l'horlogerie c'est un petit peu loin, hein, ça va.
Eh ben c'est un peu loin et oui bien sûr. Donc là aussi j'ai mis le doigt sur quelque chose qui paraît aujourd'hui complètement incompréhensible, impensable, mais c'est l'idée que le père décidait et l'enfant suivait.
Ouais.
Donc c'est pas grand chose tous ces petits points qu'on rappelle, mais c'était la réalité des années qui sont pas si loin que ça d'aujourd'hui et de savoir un petit peu le parcours de qui a pas toujours été facile de nos parents, tout simplement, hein, aujourd'hui de nos parents, qui, au moment de leur jeunesse, avaient des choix, peut-être pas toujours, mais souvent imposés pour X raisons, hein, bien sûr. Mais là, dans le cas de l'horloger, donc ils se retrouvent à l'école du bois, à être formés au métier de scieur affûteur, alors qu'il aurait voulu aller, lui, à la célèbre école d'horlogerie de Besançon.
Oui, puisque vous nous parlez de LIP, je crois que ça n'existe plus, ça, si.
C'est ça, donc, ouais. Bien entendu, c'est LIP. Enfin, LIP, c'était
une... C'était une marque.
C'était une marque, et puis Besançon, c'était, on va dire, la capitale des grosses entreprises d'horlogerie.
Ouais.
Donc, effectivement, quand on parle de l'horlogerie, pour notre Yves, c'est aussi quelque chose qui voit en perspective, parce que dans la région... Effectivement, c'est vrai que d'un côté, vous avez Morteau, la Suisse, où aussi il y avait des fabricants de montres, mais il y a bien entendu Besançon qui rayonne dans le monde entier, voilà, avec notamment Fred Lippe, une très très grosse entreprise déjà dans les années 50-60, qui est une entreprise qui est plutôt dans le centre-ville, et qui va, après 60, déménager donc à Palante, et dans une usine ultra moderne, capable de contenir jusqu'à 1000 ouvriers, un truc impensable aujourd'hui, quoi. Et Yves, bien entendu, c'est ça qu'il voit un petit peu en perspective, hein, rentrer dans ce métier-là, cette entreprise. Mais on verra donc au fur et à mesure du roman comment on va peut-être pas trop en dire pour pas dévoiler le.
Ah ben non, faut pas dévoiler la fin.
Mais bon, c'est un peu son souhait de pouvoir rentrer un jour chez Lip.
Ouais.
Mais dans l'immédiat, après avoir passé son CAP, ben il faut rejoindre la série familiale et s'occuper de l'affûtage de la série, quoi.
Ouais. Alors, bien sûr, le monde a énormément changé, parce que dans le temps, d'ailleurs, quand on faisait sa première communion, on offrait une montre. Hein, c'était ça. Mais bon, c'était des belles montres et tout. Bon, maintenant, c'est un peu galvaudé, hein, parce qu'on sort des montres comme on sort, je sais pas quoi, mais ça arrête pas, hein, c'est plus la même fabrication. Bien que, il reste des marques quand même qui fabriquent encore artisanalement. Hein.
Bien sûr. Alors, c'est intéressant que vous mettiez le doigt là-dessus. D'ailleurs, vous auriez pu me poser la question, comment est née l'idée de ce livre? Eh ben, écoutez, vous l'avez évoqué, c'est l'idée que moi, comme des milliers de jeunes à la communion, alors solennelle, ben, on m'a offert une montre libre que j'ai toujours. Et c'est vrai que j'ai toujours eu, je ne sais pas pourquoi, en perspective cette marque. Et puis voilà, donc je sais pas pourquoi. Certains disent, bon, parce que vous m'avez pas posé la question non plus, mais je suis originaire du Bessa, donc.
Ah, le Bessa.
Voilà, donc pourquoi ne pas avoir écrit une histoire sur Manu Franche, hein,
ah, aussi, exemple. Oui.
Ça aurait pu, mais je sais pas, donc voilà, mon âme, si on peut dire, a pu s'être portée sur le Jura, et puis nous mettre un petit peu dans l'ambiance de ces années-là, et puis ouais. Surtout des années 70 avec le fameux conflit LIP,
ouais.
Qui a été quelque chose d'assez important à l'époque. Et ben voilà, mon esprit s'est plutôt tourné sur le Jura et sur l'histoire, cette montre que je portais et que je porte toujours au bras, la fameuse LIP.
Ah oui, ben moi, j'ai ma tante qui habite en Suisse, à Plan-les-Ouates, et donc à Genève, quoi, mais c'est un quartier de Genève. Et là, ils y sont tous, hein, il y a Rolex, ils y sont tous. Ce qui fait que on surnomme Plan-les-Ouates, Plan-les-Watch, donc voilà. Mais il y a encore des des fabricants de montres, voilà. Donc ça reste quand même encore important. Alors, ils fabriquent des montres. Pas à 15 euros ou à 20 euros. Hein, c'est...
Oui.
Mais bon, ça reste un mécanisme. C'est tout petit, hein, quand on pense une montre. C'est mécanique, il faut avoir des doigts de fée, hein, pour monter.
Ouais.
Donc,
une patience.
Et une patience. Alors, on ne sait pas si Maurice, si Yves, lui, l'horloger de Jarrou, il va arriver à faire ça, et bien peut-être son rêve pour fabriquer des montres. Ça, c'est le roman qui va le dire. Hein.
C'est ça, donc on ne va pas trop dévoiler la suite de l'histoire. Mais alors, quand même, ce qui est important de dire aussi, c'est que on va dire en guillemets, puisque le roman va la retracer un peu tout le conflit LIP qui va démarrer donc juin 73, pratiquement jusqu'en janvier 74, avec des épisodes romanesque, on va dire, hein. C'est la première fois finalement qu'un roman aborde le conflit LIP. Ça faut quand même le dire. Il y a énormément de vidéos, d'études sociologiques qui ont été faites sur le conflit LIP, des biographies aussi, notamment de Piaget, de Ragnès,
Piaget.
Des, Ouais, donc Piaget, donc qui a été assez, très très connu pour ses engagements et puis et qui donc est toujours vivant. Ouais. Il habite à Besançon, donc j'ai travaillé avec lui aussi. Ça a été un peu mon conseiller technique. Parce que bon, beaucoup me disent, mais Maurice, l'horlogerie, tu es horloger, avec bon, les gens qui ont lu le livre, ils me disent, il y a une telle précision qu'on pourrait penser que tu connais aussi l'horlogerie. Ben, non, je connais pas l'horlogerie, mais voilà, donc j'ai travaillé avec des gens qui, eux, étaient des experts et qui m'ont mis vraiment sur les bonnes pistes, quoi, on va dire, voilà.
Oui, et puis quand on écrit un roman comme cela, hein, il faut être précis aussi. Donc la précision, elle n'est pas seulement dans les montres, hein, mais elle était dans le récit exactement.
Et donc, oui, tout à fait. Voilà.
Donc Maurice Chalaillet, l'horloger de Ravoux, de Jarroux, pardon, aux éditions de Boré. Bon, on a fait un peu le tour du livre, là, je pense. Sinon, c'est ma dernière question en général. Un autre sous le coude, parce que tous les auteurs en ont. Hein.
Oui, alors actuellement, là, je suis en train de travailler depuis un an sur... moi, j'aime bien les histoires de vie aussi, donc c'est un peu le... Mes derniers romans, c'est un petit peu les angles d'attaque que j'ai pris. Là, je travaille sur l'histoire de vie d'un paysan de ma région, là, du Rhône, qui, de son enfance, j'allais dire, jusqu'à la soixantaine, et surtout sur la mise en lumière un peu de l'évolution de l'agriculture, voilà. Et c'est ça qui est intéressant de voir, de suivre un homme et des hommes ou des femmes avec lui, de suivre en parallèle donc cette évolution de l'agriculture, cette agriculture donc qui sort de la guerre. Où il faut nourrir le monde, hein, c'était l'expression qui était employée, où la petite agriculture de montagne n'est plus vivable, donc et ça fera le cas de la famille de mon prochain héros. La seule idée, c'est d'aller vers les terres plates, hein, c'est-à-dire la plaine de lin, pour pouvoir exploiter à une plus grande dimension, enfin une plus grande échelle. Et puis, malheureusement, ça va me permettre de toucher du doigt aussi. Et bon, je sais bien que c'est un sujet un peu tabou aujourd'hui, mais de son point de vue, de l'assumer, c'est-à-dire l'utilisation des engrais, des pesticides qui vont faire partie aussi de cette agriculture moderne des années 60-70. Hein, faut pas se leurrer, donc plus on en met, plus ça produit, et de l'assumer avec malheureusement un problème grave qui va arriver à cet homme-là, et à la 33 ans, qui le fera se remettre en cause quant à sa méthode de travail, on va dire. Et cette remise en cause, alors je suis parti d'un fait réel, hein, cette remise en cause a bien existé, et c'est notamment la remise en cause à travers la redécouverte notamment des mésanges et leur rôle absolument important dans la régulation, on va dire, des insectes destructeurs des cultures. C'est les nichoirs, la fabrication des nichoirs, c'est une autre façon aussi de cultiver la terre, notamment en diminuant le labour. Et ça, on est dans les années 90, c'est-à-dire que c'est le discours et les actes qu'on entend aujourd'hui de plus en plus. Voilà. Donc c'est montrer que on n'a pas attendu aujourd'hui, notamment la remise en cause de nos pratiques. Donc il y a déjà des gens qui avaient testé, malheureusement, suite à un problème, un autre type d'agriculture. Et puis c'est aussi à travers ce prochain roman, et c'est un gros travail de recherche aussi, parce que bon, mon idée, elle est là aussi, c'est d'offrir aux lecteurs des informations, des découverte de choses qu'ils connaissaient peut-être pas, mais c'est aussi de nous apprendre en fait toute l'influence de la JAC, hein, la jeunesse agricole catholique, des années 50, on va dire, aux années 60-65. Cette JAC qui a fédéré dans les villages les jeunes en leur apportant de l'activité et puis surtout de la réflexion, hein. Et c'est ma grande découverte aussi, c'était de me rendre compte l'influence de l'encadrement des jeunes dans le monde rural, donc par la JAC, mais aussi par des aumôniers, hein, qui étaient un petit peu dédiés à ou près du village s'il adhérait aux idées, mais des aumôniers un peu spécialisés dans l'accompagnement de ces jeunes garçons et filles, et voilà, donc c'est-à-dire leur faisant faire des stages de formation en complément de leur formation initiale. Mais c'est aussi en faisant des groupes de théâtre, des groupes de chansons, et puis en mettant en place des grands rassemblements, comme le rassemblement d'Annecy à la fin des années 60, qui a réuni, je crois, plus de 20 000 jeunes. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert, et c'est là que je me suis rendu compte et compris pourquoi il y a eu autant d'hommes et de femmes engagés, on va dire, dans le monde rural, tout simplement parce que ils avaient eu un enseignement, une éducation catholique, certes, mais une éducation les motivant, les formant à aider les autres et à s'engager. Voilà. Et ça, c'est quand même une belle leçon de vie, quoi, qui serait peut-être intéressante de regarder de plus près pour aujourd'hui, quoi.
Voilà. Ok, donc ça sera votre prochain roman. Mais écoutez, Maurice, merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle, Maurice Chalaillet, Le Porteur de Joie, un livre de poche, Prière Verme 2021, et puis le dernier, là, L'Horloger de Jarou, toujours chez Deboré. Merci d'avoir été avec nous, et on attend votre prochain roman avec impatience, bien sûr.
Voilà, bah écoutez, grand merci pour cet entretien riche. C'est toujours intéressant qu'un auteur puisse expliquer le fond de son travail. Et puis, j'invite les lecteurs à découvrir ces deux ouvrages. Et puis, si ça leur plaît, de revenir en arrière et puis d'aller lire, par exemple, Les Neiges du Mont-Argental, qui se passe pas très loin de chez vous, puis ça se passe dans le Pila.
Ah oui.
Une autre histoire là qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale.
D'accord.
Et voilà, donc je pense que ça peut plaire aussi.
Merci beaucoup, et on va se quitter avec le générique du film L'Horloger de Saint-Paul. Voilà.
Merci beaucoup.
Et c'est merci à vous, au revoir Maurice, merci.
Au revoir.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cet invité du jeudi. Nous avons reçu Maurice Chalaillet, pour son livre Le Porteur de Joie, prix Arverne 2021, et son dernier roman L'Horloger de Jarrou, tous les deux aux éditions de Boré. Alors, L'Horloger de Saint-Paul se déroule bien sûr à Lyon. Ça, c'était un film de Philippe Tavernier. On va se quitter avec Michael Miro qui nous dit que l'horloge tourne. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30 et le jeudi, bien sûr, l'invité du jeudi, c'est à 15h. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet en podcast. On va s'écouter deux chansons pour terminer. Michael Miro, L'horloge tourne, et on écoutera Émilie Joly, la chanson de l'horloge.
Un SMS vient d'arriver, j'ai 18 ans. On volait ma virginité, je suis plus un enfant. L'horloge tourne, les minutes sont torrides, et moi je rêve d'accélérer le temps. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 20 ans. On l'a fait sans se protéger, mais je veux pas d'un enfant. L'horloge tourne, les minutes infanticides, et moi je rêve de remonter le temps. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Dame, dame de haut, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 21 ans. 9 mois se sont écoulés et toujours pas d'enfant. L'horloge tourne, les minutes se dérident, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 25 ans. Tsunami a tout emporté, même les jeux d'enfants. L'horloge tourne, les minutes sont acides, et moi je rêve que passe le mauvais temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 28 ans. Mamie est bien fatiguée, mais je suis plus un enfant. L'horloge tourne, mais son cœur se suicide, et moi je rêve. Je rêve du bon vieux temps. Dame, dame des hauts, oh, oh, oh. 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 Un SMS va arriver, j'aurai 30 ans. 30 ans de liberté et soudain le bilan. L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve d'arrêter le temps. Dame, dame des hauts.
Voilà, et puis on va se quitter donc avec cette chanson extrait du conte de Philippe Châtel, Émilie Joly, et justement, c'est la chanson de l'horloge.
Vous étiez deux, nous serons trois, si vous m'emmenez dans dans ce périple, j'aurais craché, je ne sonnerai pas, ou juste une fois, pour le principe, j'ai moi aussi droit au bonheur. Plus un seul tac, plus un seul tic, je passerai du midi à 14 heures, vieux rêve de ma mécanique. Valse les heures et les secondes, mais qu'est-ce qui fait courir le monde? Je ne voudrais tout simplement qu'un peu de temps. À nous les trains qui changent d'avis, auto-école buissonnière, avions qui suivent les colibris, bateaux qui sèchent l'eau des paupières. M'emmener, je vous promets, une vie dans un seul instant. J'ai besoin de vous et vous de moi. Vous étiez deux, nous serons trois. Valse les heures et les secondes, mais qu'est-ce qui fait courir le monde? Je ne voudrais tout simplement qu'un peu. Cette pendule tombée dans la mélancolie et qui de l'aube au crépuscule ne voit vieillir que ses amis. J'arrête là, silence motus, mais pardonnez-moi cependant, c'est pour vous en faire gagner plus que je vous ai pris quelques instants. Valse les heures et les secondes, mais qu'est-ce qui fait courir le monde?
Interprété par Daniel Darieux. Et bien, cet invité du jeudi est terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée.